Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous écoutez Transistor, et ce jeudi 7 mai, nous sommes toujours en confinement pour cette quatrième édition dématérialisée du journal radiophonique Amplifié. Il est 20h et c'est l'heure de l'actu mixée, égalisée, montée, et toujours aussi dématérialisée qu'amplifiée. Au dehors, l'actualité continue, et ce soir, comme tous les jeudis une semaine sur deux, nous allons à sa rencontre avec toute l'équipe de Transistor. Nous retrouvons tous nos chroniqueurs et chroniqueuses avec au programme drone, inégalité d'accès à l'eau, sortie musicale du moment, du sport, des jeux géographiques, des lobbies, un film et des podcasts. Bienvenue à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Et on commence avec quelques nouvelles nationales et je vais vous donner quelques chiffres. 110 milliards d'aides vont bientôt être distribuées aux entreprises affectées par la crise sanitaire. 110 milliards qui s'ajoutent aux 100 milliards initialement prévus dans le budget 2020 de l'État. De ces 210 milliards donc, cela ne vous étonnera pas, une grande partie a été et sera captée par les grands groupes. Le 25 avril déjà, Air France, dont les pertes économiques sont apparemment lourdes, a reçu de l'État 7 milliards d'euros pour maintenir son activité. Des lignes intérieures vont d'ailleurs reprendre dès le 11 mai. Quel mal alors peut-on voir à ce socialisme de crise? Ces aides, malheureusement, ne sont soumises à aucune contrainte écologique ou sociale. À peine demande-t-on aux entreprises de respecter leurs objectifs de responsabilité sociale et environnementale. Sans contrôle, bien sûr. Et il en est de même, autant pour les aides exceptionnelles que pour les aides habituelles. Et Mathilde fait un point sur la productivité.
Oui, les lobbies s'activent contre les normes environnementales pour la reprise de la productivité. En cette période de crise économique et sanitaire, les lobbies productivistes mènent une véritable bataille idéologique, selon Maxime Combes, interrogé par Reporter. Le porte-parole d'Attaque montre qu'il y a différentes initiatives prises par le monde patronal pour continuer d'influencer la loi en leur faveur. Business Europe, par exemple, le syndicat patronal européen, a demandé une suspension des législations et consultations environnementales dans un courrier adressé au commissaire européen Frans Timmermans, chargé de la lutte contre le réchauffement climatique. À l'échelle nationale, le MEDEF a écrit une lettre à Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, pour requérir un moratoire de 6 mois sur, je cite, « la préparation des nouvelles dispositions énergétiques et environnementales ». Le président du syndicat patronal y déclare ainsi « Notre priorité aujourd'hui est de surmonter la crise et de travailler à la survie de nos entreprises. Des lobbies qu'on aurait bien envie de congédier en travaillant à notre propre survie. »
Merci Mathilde, et Victor va maintenant nous parler de drones.
À Paris, la surveillance du confinement par drone policier a été approuvée par la justice. Le tribunal de Paris, en effet, a rejeté le recours déposé par la Ligue des droits de l'homme et la Quadrature du Net, qui s'inquiétaient entre autres de l'exploitation des images captées par drone. Le jugement mentionne que rien ne permet au drone d'identifier les individus au sol et que les images ne sont pas recoupées avec les fichiers de police. Plusieurs éléments continuent néanmoins de poser le problème. D'abord, le recours au drone par les forces de l'ordre n'a pas fait l'objet de débat et ne s'inscrit dans aucun cadre législatif strict. Ensuite, les conditions de stockage des données sont peu encadrées et laissées à la discrétion des opérateurs concernés. Autre problème, la préfecture partage également des images aériennes des bâtiments de Paris sans que l'on sache si elle a obtenu l'autorisation normalement nécessaire de l'aviation civile et alors que la réglementation impose que les drones volent à moins de 300 mètres. Des faits qui n'empêchent pas la surveillance par drone de se généraliser. En avril, un appel d'offres a été lancé pour 600 drones destinés à la police et à la gendarmerie, à surveiller de près.
Et la culture, évidemment, fait partie des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Au téléphone, Clémentine, intermittente du spectacle à la tête d'une association chargée de l'organisation de concerts à Lyon, témoigne « On ne sait pas quand les concerts vont être à nouveau autorisés. Et surtout, je vois tous les agents qui reportent sur 2021 tous les concerts de la rentrée d'automne. Et pire que ça, je vois des agents qui avaient prévu des concerts en février 2021 qui reportent à l'automne 2021. Il y a l'éventualité qu'il n'y ait aucun concert au deuxième semestre. Et en effet, l'OMS, par exemple, a préconisé l'arrêt des concerts jusqu'à 2021. Pour les 274 000 intermittents et intermittentes du spectacle, en particulier, la situation est difficile. Si un collectif s'est monté, le collectif Année Noire 2020, récoltant 170 000 signatures sur une pétition pour défendre les droits des intermittents et intermittentes, le gouvernement semble peiner à comprendre la situation. En effet, si Franck Riester et Muriel Pénicaud ont annoncé le gel du calcul des heures jusqu'à la fin de la période de déconfinement et la prolongation des droits de façon proportionnelle à la durée du confinement, on peut se demander ce qui adviendra de tous celles qui pourront ni reprendre immédiatement faute de répétition, ni reprendre tout court pour cause de mesures sanitaires. Et des violences policières avec Mathilde.
Oui, à Marseille, le 12 avril dernier, deux policiers ont arrêté un jeune réfugié afghan à Marseille. Ils l'ont enlevé, isolé dans un chemin forestier à plus de 30 km de la ville. Ils l'ont violenté, puis abandonné après avoir cassé son téléphone portable. Ils écrivent ensuite une fausse main courante, stipulant qu'ils ont déposé le jeune homme au commissariat pour défaut d'attestation. Les deux fonctionnaires ont été jugés en comparution immédiate hier et condamnés respectivement à 4 ans et 18 mois de prison. Le troisième membre de l'équipe, une adjointe de sécurité, a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Une condamnation bienvenue alors que des cas de violences policières sans saisie de l'IGPN par la suite ont été rapportés dans le cadre des contrôles de confinement.
Qui remarque-t-on depuis le début de la crise? Ou plutôt, qui ne remarque-t-on pas? Des collectifs sonnent la sonnette d'alarme sur l'aggravement des inégalités hommes-femmes pendant le confinement. Les images ne sont pas passées inaperçues. Que ce soit le plateau de CNews, où une poignée d'hommes étaient invités à discuter de féminisme sans imaginer laisser la parole aux premières concernées, ou la une de Paris Match et son conseil de guerre, belle tablée exclusivement masculine, le confinement, c'est l'accroissement de la charge mentale, le rallongement des délais d'accès à l'IVG et la hausse des violences domestiques. Le tout en rappelant que 70% des postes de caissière, des professions du social et de l'éducation sont occupés par des femmes. Les problématiques féministes ne passent pas au second plan pendant la crise. Stop au coronaviril, comme diraient les députés Clémentine Autain et Elsa Faucillon. L'occasion de faire de la pub pour la formation de Nous Toutes, animée par Caroline de Haas, sur les violences sexuelles et les violences au sein du couple. Formation de 2h30, rassemblant 1000 personnes à chaque fois, et dont la prochaine date encore disponible est le 30 mai à 16h. Et on passe à l'international maintenant, et Victor va nous lire une brève de Marie portant sur l'Irak.
Et l'Irak se dote après 5 mois de vide politique d'un nouveau gouvernement qui sera dirigé par Mustafa Al-Kadhim, ancien chef du renseignement. Al-Kadhim a d'abord été journaliste et militant anti-Saddam Hussein et a fondé un complexe de médias pour dénoncer les crimes racistes avant d'intégrer le renseignement dans le cadre de la lutte contre l'État islamique. Il dispose aujourd'hui de réseaux établis aussi bien qu'à Washington qu'à Téhéran et on le dépeint comme un négociateur hors pair et rusé. Des qualités qu'il devra mettre à profit alors que les manifestants continuent de protester contre la classe politique et l'économie très mal en point du pays et que le Covid-19 inquiète fortement les Irakiens. La prochaine séance pour Mustafa Al-Kadhim, faire adopter le budget 2020. Mais le chef du gouvernement a déjà des bâtons dans les roues, puisque les députés ne se sont pas entendus sur le choix de candidats à des postes cruciaux, et que des portefeuilles, comme celui du pétrole ou des affaires étrangères, restent vacants. Tensions géopolitiques, révolte latente dans un pays qui est le deuxième producteur de l'OPEP, mais incapable de fournir eau et électricité à tous ses habitants, les défis du nouveau gouvernement sont de taille.
Et un nouveau gouvernement en Israël aussi, Nicolas.
Oui, ça y est, la Cour suprême israélienne a validé pas plus tard que ce matin le principe d'un gouvernement d'alliance dirigé par Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, une décision attendue depuis à peu près 2 semaines, date où un accord de principe avait été conclu entre les deux hommes forts du moment de la scène politique en Israël. Histoire un peu compliquée car peut laisser entendre que le Likoud d'extrême droite de Netanyahou et la formation centriste bleu-blanc de l'ex-chef de l'armée Benny Gantz, qui ont cultivé une opposition mettant quasiment le pays en paralysie exécutive pendant plusieurs mois, allait s'entendre. La raison officielle de ce mariage, la crise du coronavirus, justifiant, malgré les accusations accablantes de corruption envers Netanyahou, l'urgence de trouver une solution bête et méchante, former un gouvernement d'union où les postes seraient équitablement partagés entre les deux parties. Les perdants, eh bien, tous les modérés, tous les partis qui voulaient au moins faire évoluer la position d'Israël dans le conflit israélo-palestinien. Ici, au contraire, L'accord entre Netanyahou et Gantz prévoit aussi l'annonce à partir du 1er juillet d'un plan pour la mise en œuvre du projet du président américain de Donald Trump sur le Proche-Orient qui prévoit l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain, une portion de terre stratégique et de colonies juives en Cisjordanie occupée depuis 1967. Affaire évidemment scellée, mais à suivre.
Et après ces quelques nouvelles de l'international, on revient vers chez nous car à 20h13, c'est l'heure du billet d'ici de Nicolas.
Et le mouvement Nuit Debout se poursuit.
Les fascistes et réactionnaires.
C'est même étendu ces derniers jours en région.
Tous les sujets seront abordés, il sera mon invité en direct.
Salut les amis, alors il y a deux semaines j'ai fait un reportage exclusif portant sur le grand débat qu'est le choix du nom du mouton de Soet qui a vu le jour sous les yeux confinés du campus Descartes. D'ailleurs le choix est fait, c'est risotto, bravo à vous d'avoir prouvé encore une fois votre goût les normaliennes et les normaliens. Mais cette semaine l'enjeu est autre. Plus qu'un jeu, un phénomène culturel. Déjà qualifié de Dark Souls des férus de géographie, le jeu Saut de Canton a, en l'espace d'à peine 10 jours, retourné le Twitter francophone. Et évidemment, nous n'allions pas laisser passer l'info comme ça. J'ai pu donc avoir au téléphone un peu plus tôt dans la journée Pierre, un des cofondateurs du jeu.
Et alors, qu'est-ce qui t'a pris Pourquoi ce jeu?
C'est un pote qui m'a envoyé un message. Il s'appelle Corentin, c'est lui qui a eu l'idée, vraiment. Il m'a dit, tu vois, sur Wikipédia, l'endroit où, sur les pages des villes, il y a une boussole et il y a toutes les villes alentour, on peut se déplacer de page en page. Et ça pourrait être marrant d'imaginer un jeu où on n'a pas d'autres informations et on se déplace comme ça de ville en ville. Après, un autre ami m'a montré qu'il y avait quelque part sur Internet une liste de toutes les villes avec les villes voisines. Et à partir de là, j'ai testé de faire une petite page web où on pouvait lister toutes les villes voisines d'une ville et... Après, j'ai développé jusqu'à faire le jeu complet.
Alors, si je ne m'abuse, le jeu existe depuis le 29 avril et il a été du coup compilé grâce à OpenStreetMap. Et tu pourrais m'expliquer un peu comment tu as réussi à faire ?
Les données viennent d'OpenStreetMap qui ont eux-mêmes pris leurs données du cadastre. Donc, normalement, c'est super précis. Et quelqu'un, Christian Kest, sur Internet, avait déjà mis en ligne... transformer les données d'OpenStreetMap en données de villes voisines en regardant celles dont les frontières se touchaient, en fait, entre guillemets.
Ah, c'est super intéressant et j'ai un peu centralisé des questions de mes amis qui sont devenus très 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 fans en très peu de temps de Saut de Canton et ils me posent la question, mais comment tu réussis à séparer les villes qui sont par exemple au nord, au nord-ouest, à l'est, et surtout, qu'est-ce qui se passe si l'algorithme te parachute automatiquement dans une grande ville?
On a justement un petit problème de direction à certains endroits, parce que pour l'instant, la position des villes les unes par rapport aux autres, elle est décidée. C'est un peu compliqué, et même moi je ne comprends pas bien, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'était cette partie qui vient du contributeur d'OpenStreetMap, par rapport globalement à ce qui serait le barycentre de chaque ville. C'est gênant pour certains joueurs parce que quand ils connaissent les villes et que typiquement un centre-ville est tout au nord d'une ville, ils vont pas comprendre pourquoi la ville qui est pour eux plus au nord, elle est marquée à l'ouest sur le jeu. Mais c'est parce qu'en fait, la ville elle peut s'étendre largement au sud sur des campagnes et donc son centre est plutôt au sud alors que le centre de la ville qu'ils considèrent au nord, il va être plutôt à l'ouest finalement. Alors, je connais les populations de chaque ville, évidemment, pour déterminer si la partie est gagnée ou non à partir de la population de la ville. Du coup, on peut commencer que dans des villes de moins de 1000 habitants. Ça enlève déjà le problème de tomber dans la ville gagnante immédiatement, ou voire en banlieue, parce que généralement, des villes de moins de 1000 habitants, elles sont pas en banlieue de villes de plus de 50 000 habitants. Et en plus, ça donne un côté un peu dur parce qu'on tombe évidemment dans des coins paumés à chaque fois.
Alors justement, comment on fait pour être le meilleur possible à ce jeu?
Bonne question. Moi-même, je trouve ça super dur parfois. Pour être bon, je pense qu'il faut connaître déjà les rivières, parce que souvent les villes sont nommées d'après les rivières qui les traversent ou qui sont proches. Et il y a un truc super intéressant, c'est les toponymies régionales, qui se retrouvent dans certains endroits. Alors classiquement, les villes d'Alsace Et un peu de Lorraine, on les reconnaît très vite, les villes qui finissent en Heim, les villes qui finissent en Schwitz, des choses comme ça, on va reconnaître très vite. Les villes autour de Bordeaux ou dans le Limousin qui finissent en Hac aussi. Il y a des petites astuces comme ça. Et sinon, je pense que moi, le plus marrant pour moi, c'est de juste fonctionner d'expérience et de se dire « Ah, mais le nom de cette ville me rappelle un voyage que j'ai fait, me rappelle quelqu'un que je connais qui habitait là-bas » ou des choses comme ça. Et d'essayer d'estimer par rapport à ses souvenirs où on est.
Mais c'est une manne d'or absolue pour les géographes. Ce que tu nous racontes, c'est d'autant plus intéressant que cette année, au programme du CAPES et de la grecque de géographie, il y a les espaces ruraux. Et alors, j'ai lu un article des Inroc qui est sorti hier et qui parlait de ton jeu justement et qui a interviewé un géographe qui dit que l'expérience de saut de canton, c'est la diagonale du vide comme ultime horizon inatteignable, mais néanmoins parcouru. Alors bon, évidemment, on peut dire que ça peut être carrément vu comme un effort politique, ton jeu, mais... qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Alors, c'est pas un effort politique du tout, dans le sens où j'ai pas du tout spécialement de choses à défendre sur la ruralité ou quoi que ce soit. J'ai jamais habité en campagne, par exemple. Moi, c'est quasiment poétique, parce que c'est les toponymes qui m'intéressent, c'est ça qui est super beau, et c'est les souvenirs qu'on fait en voyageant qui m'intéressent.
Alors justement, c'est pas un peu un jeu de boomer ?
Ah, c'est... J'en suis ravi, c'est vraiment un jeu qui plaît énormément aux gens qui ont 50 ans, 60 ans et plus, parce que ils ont d'autant plus de souvenirs de voyage.
Oui, et d'ailleurs, il y a Cécile Duflo, ancienne ministre du Logement, qui a fait la pub de ton jeu il y a quelques jours, et qui est elle-même géographe d'ailleurs.
Je ne savais pas. Ouais. Cécile Duflo veut jouer avec ses enfants aussi, et je me suis intéressé ces derniers jours à comment on pouvait justement faire jouer les enfants qui partent, pour le coup, eux, d'aucune connaissance. Donc, on peut leur faire utiliser une carte, évidemment. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, j'ai rajouté des fonctionnalités pour qu'on commence dans un département précis. Comme ça, si on veut jouer avec ses enfants, on peut les mettre dans le département où on habite. Et les noms vont plus résonner que si on les met à l'autre bout de la France.
Et est-ce que tu as pensé à ajouter les DROMCOM ou des pays contigus à la France ou...
Très vite, les DROMCOM et la Corse ont été enlevés parce que déjà, si on tombe dedans, on ne peut pas en sortir. Et par exemple, sur l'île de Ré, on ne trouvera pas de ville de plus de 50 000 habitants. Il n'est pas encore question de les remettre parce que c'est des territoires si petits que des parties seraient très courtes dedans pour la plupart. Quant à d'autres pays, ouais, c'est une envie de les mettre. Alors, c'est parce que la France, elle a quand même un point particulier, c'est que elle a 36 000 communes et c'est 40% des communes de l'Union européenne. Donc, il y a vraiment un jeu qui est profond en France, qui va être... Justement, il est très compliqué, ce jeu, à la base. Mais c'est ça qui est un peu marrant, c'est qu'il est très long. On met très longtemps à sortir des petits pays.
Alors, évidemment, notre interlocuteur n'a pas échappé à la traditionnelle question éditoriale de la saison. Créer ce jeu en plein milieu de confinement, ce ne serait pas un peu une manière de s'échapper ?
Je ne sais pas si le confinement a à voir là-dedans, parce que moi, ce n'est pas ce que je ressens personnellement et j'ai du mal à me projeter là-dedans. Parce que de toute façon, si on avait été au travail en ce moment, on ne serait pas non plus sur les routes de France. Donc, ce n'est pas ce qui nous manque spécialement d'aller partir sur les petites routes, les départementales de France. Ce n'est pas ce qu'on fait au quotidien non plus. Je pense que ça rappelle plus vacances et des moments très particuliers, très rares, plutôt que le quotidien et qu'on essaye de retrouver peut-être en ce moment. Alors, Corentin et moi, on n'a pas du tout d'historique sur la géographie. Lui, je sais pas. Moi, j'ai une appétence en loisir pour ça. Je joue beaucoup à GeoGuessr, qui est un jeu où on se retrouve n'importe où dans Google Street View et on doit savoir où on est. Donc, ça ressemble beaucoup finalement à ce que j'ai fait. Mais je m'intéresse à des initiatives géographiques du genre The Big Walk, qui est un jeu qui à partir des pas que l'on fait dans la journée, qui sont comptés par des mécanismes électroniques, nous amène à faire le tour du monde.
Alors, dernière petite question, c'est quoi ton meilleur score ?
Alors, ce qui est incroyable, c'est que mon meilleur score sur une partie, on va dire, classique, c'est-à-dire trouver une ville de plus de 50 000 habitants, c'est 146, et je l'ai fait dans les tout premiers jours, et j'ai jamais réussi à refaire aussi bien depuis.
Bon, vous l'aurez compris, chères auditrices, chers auditeurs, ce record est en fait une invitation à le battre. N'hésitez pas donc à partager avec nous vos aventures les plus absurdes sur Saut de Canton ou à juste simplement haïr en silence la ville de Laval, qui est probablement la manière la plus frustrante d'y perdre avec ses 47 700 habitants, c'est-à-dire juste en dessous de 50 000. Allez, bonne fin de confinement à vous et bisous post-vidalien subcritique.
Journal radiophonique amplifié de Transistor, en direct avec vous jusqu'à 21h. Attention à vos oreilles.
Merci Nicolas, de super et surtout interminables parties de Saut de Canton en perspective. Et c'est maintenant l'heure de la revue de presse lue par Mathilde et écrite par Marie.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors aujourd'hui, Mathilde, tu nous proposes une revue de presse ou de la littérature ?
Eh bien, un peu des deux. Aujourd'hui, Marie a trois grandes nouvelles pour vous. La première, c'est que nous allons effectivement être déconfinés lundi 11 mai. La seconde est que le nombre de tribunes sur le monde d'après a officiellement dépassé celui de malades du Covid. Et la troisième, c'est que les mots des journaux aujourd'hui convoquent aussi un peu de littérature.
Alors tu voudrais d'abord nous parler de contes.
Oui, l'Obs n'oublie pas les spécimens rares qui regretteront le confinement et les lectures qu'ils auront pu faire dans le calme de leur pénate. Et a préparé un numéro spécial histoire de Covid. Il y a d'abord celle de la duchesse de Rohan, Antoinette de son prénom, confinée dans son château de 2500 m² dans le Morbihan, sans ses 15 employés, et qui découvre les joies du ménage. Bref, la duchesse passe la serpillière, et ça lui fait tout drôle. Il y a aussi l'histoire du championnat de foot biélorusse, qui se déroule comme si de rien n'était, au cœur de la seule dictature du continent, et qui, faute de concurrence, attire spectateurs et investissements. Bref, qui fait un carton. Le magazine raconte aussi les aventures d'un Américain venu remplacer le gardien d'une cité minière abandonnée en Californie et qui s'est retrouvé bloqué là-bas, seul, par une tempête de neige.
Un Shining contemporain.
Exactement. Et je vous passe les histoires d'un marionnettiste et sa troupe venus répéter Moby Dick de Melville dans une île norvégienne et confinés sur ce bout de terre coupé du monde. Mais justement, avec le déconfinement, on va enfin trouver contact avec le monde.
Avec un monde nouveau et meilleur.
Oula, non, ne vous réjouissez pas tout de suite. Camus écrivait « Le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais ». Le gouvernement a déjà un plan de reconfinement et Michel Houellebecq nous prévient « Le monde d'après ressemblera, je cite, à celui d'avant en un peu pire ». Dans d'autres journaux, on s'intéresse encore au passé et l'on fait le procès de la gestion de la crise. Dans Le Monde, on passe en mode thriller pour résoudre une énigme persistante. Pourquoi une réaction aussi tardive du gouvernement et pourquoi 70% des médicaments vendus en Europe viennent d'Inde ou de Chine? Dans Le Figaro, on dénonce des blocages de tous les ordres, psychologiques, politiques, bureaucratiques ou juridiques. Les verrous français sont autant les doctrines que les protocoles et les traditions, et ils ralentissent considérablement la gestion de crise. Bref, au pays de Voltaire, Kafka est roi.
Mais on pourrait aussi voir les choses autrement que par l'absurde.
Oui, en pensant par exemple à toutes les innovations qui sont nées en cette période. Aux Pays-Bas, les restaurants créent des serres pour deux personnes dans lesquelles la nourriture n'entrera que par un système de planches coulissantes. En Auvergne, une entreprise invente une lampe hybride permettant à la fois d'éclairer et de désinfecter une surface grâce au LED ultraviolet. D'autres inventent des crochets pour ouvrir les pieds. Attention tout de même, un astrophysicien australien s'est retrouvé à l'hôpital avec des aimants dans le nez après avoir cherché à inventer un collier émettant un signal quand une personne rapprochait ses mains de son nez ou sa bouche.
Bon, et plus sérieusement ?
Eh bien, des chercheurs français ont eu l'idée de placer des tests PCR dans les eaux usées pour détecter le virus avant que les symptômes ne se déclarent. Étant donné que les selles des personnes contaminées et même des gens asymptomatiques contiennent des traces d'ARN, le génome du virus, on peut estimer la situation virologique de la ville en mesurant la quantité d'ARN dans les eaux usées, ce qui est moins coûteux que le dépistage individuel et permet de détecter les cas asymptomatiques.
En effet, c'est prometteur. Mais à plus grande échelle, comment envisage-t-on le monde d'après ?
L'écrivain Paolo Giordano s'exprime à ce sujet dans Le Monde. Il dit « J'ai peur de découvrir que l'échafaudage de la civilisation que je connais est un château de cartes. J'ai peur de la table rase, mais aussi de son contraire, que la peur passe en vain sans laisser de traces derrière elle. » Et dans le monde diplomatique, justement, on se bat pour que la peur ne passe pas en vain et que la crise soit l'occasion de défendre une nouvelle ère, celle de la planification écologique. Eh bien, elle reposerait sur 5 piliers, le contrôle public de l'investissement et du crédit, avec arrêt du financement des industries polluantes, la garantie de l'emploi, la relocalisation, la démocratie et la fin du lien entre planification et autoritarisme, et finalement, la justice environnementale. Les auteurs rappellent qu'en France, les 10% les plus riches émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres.
Un programme très ambitieux, donc.
Oui, ambitieux, et la presse du jour donne quelques pistes pour s'engager sur cette voie, comme les propositions de Nicolas Hulot, une TVA incitative sur les biens écologiquement vertueux, ou une troisième chambre où faire dialoguer experts et citoyens. Et pour celles et ceux qui voudraient aussi entendre parler des bonnes idées déjà appliquées, sachez que Courvide cherche des volontaires pour enseigner aux collégiens et que pour occuper vos soirées, Arte programme une sélection de films qui ont marqué le Festival de Cannes depuis les années 1980. La pandémie, elle, a ressemblé à un film d'horreur où les cadavres pourrissaient dans les rues en Équateur et où les parcs de New York servaient de morgue. Ou à un film fantastique dans lequel apparaissent soudainement des fantômes, des invisibles, les soignants, caissiers ou ouvriers. Alors espérons que le déconfinement ressemblera moins à Contagion qu'à un film de Wes Anderson, forcément un peu étrange, mais toujours coloré, philosophique et réfléchi.
Merci Mathilde, merci Marie pour cette revue de presse. Il est 20h29 et avec quelques minutes de retard, il est l'heure du billet éco que nous a concocté Nathan sur le chômage partiel.
Oui, Martin, on va parler du chômage partiel. Alors, chômage partiel, chômage technique ou activité partielle en termes juridiques. Dans tous les cas, cela désigne une situation où les salariés, les travailleurs subissent une perte de rémunération due soit à la fermeture temporaire de leur établissement, soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué en deçà de la durée légale de travail. Alors, pour placer ces salariés en position d'activité partielle, une entreprise doit faire une demande à la préfecture en précisant les motifs, la période de sous-activité, le nombre de salariés concernés. Les motifs étaient au nombre de 5 avant cette crise sanitaire, mais a été augmenté d'un petit dernier spécial coronavirus. Alors une fois la demande acceptée, il y a une suspension du contrat de travail, les salariés reçoivent alors une indemnité horaire, financée en partie par l'État et complétée par ensuite par les entreprises, pour que la rémunération perçue par le salarié atteigne 70% de la rémunération brute. Enfin ça, c'était avant le décret du 25 mars. Un décret publié dans le but d'assouplir le dispositif d'activité partielle et de le rendre plus profitable aux salariés. Alors deux principales nouveautés dans ce décret. D'une part, une augmentation de la durée maximale d'activité et d'autre part, la rémunération perçue par le salarié est intégralement financée par l'État. Il est maintenant égal pour chaque salarié à 70% de la rémunération horaire brute et limité à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Une nécessité pour le ministère de l'économie qui, face à 9 millions de chômeurs partiels, a déployé un dispositif qui va coûter 24 millions d'euros d'après Bruno Le Maire.
Un dispositif qui sera donc exceptionnel ?
Oui et non. Oui car ça n'arrive qu'en temps de crise. Non car un dispositif comparable fut déjà mis en place en 2008 par le gouvernement Fillon où deux types d'activités partielles furent mises en place. D'un côté l'activité partielle classique, qui prévoyait qu'un employeur doit verser au salarié pour chaque heure de chômage partiel un montant égal à 60% du salaire brut, et de l'autre, un dispositif temporaire permettant une meilleure indemnisation pour le salarié du chômage, pour les salariés au chômage partiel, pour une durée plus longue. Et cette convention prévoyait alors que l'État et les partenaires sociaux prennent en charge la rémunération du salarié à 100%. Donc à chaque crise, ces mesures spéciales concernant le chômage partiel. Eh bien, ça dépend. Pendant la crise des subprimes, c'était les entreprises industrielles qui étaient les plus touchées, à hauteur de 84% des heures consommées entre 2007 et 2010, avec tout particulièrement une importance pour le secteur automobile. Les services et l'agriculture étaient, eux, très peu touchés. Les services n'ont représenté que 13% d'horaires de chômage partiel. Les hommes étaient surreprésentés, ils étaient représentés à hauteur de 75%, et l'activité partielle touchait plus les moins diplômés et les ouvriers, et touchait même plus ceux avec plus d'ancienneté, au sein d'une même entreprise. Alors aujourd'hui, la situation a changé. Surtout, c'est sans commune mesure. On parle de millions de salariés qui sont mis au chômage partiel, quand en 2008, au pic, on ne dépassait pas les 300 000 demandes d'activité partielle. Les caractéristiques aussi ont changé. Le secteur des services est devenu le secteur le plus consommateur et de loin, les jeunes sont les plus touchés. Pour ce qui est du sexe, on n'a pas encore de statistiques. En somme, cela varie selon les activités et leurs besoins.
Et à quoi cela sert ?
En un seul mot, la flexibilité. Non, nos entreprises ne sont pas mises au yoga. J'ai emprunté quelques définitions du MEDEF. La flexibilité consiste pour les entreprises de pouvoir mieux s'adapter à la conjoncture en réduisant leur nombre de salariés, au moins au niveau horaire, et pouvoir plus encaisser les périodes de mou et mieux se relever pendant les périodes de croissance qui sont supposées suivre. Alors, les journalistes ont imputé à l'activité partielle appelée short time work, désolé pour mon anglais, la capacité de l'Allemagne à mieux se relever après la crise de 2008 par rapport à ses compatriotes européens. C'était aussi la conclusion des chercheurs Cooper, Meyer et Scott qui publiaient en 2017 un article portant sur les effets de l'activité partielle sur l'emploi et la productivité en Allemagne entre 2009 et 2010. Le résultat suggérait que l'activité partielle fut un succès pour préserver l'emploi. Cependant, les politiques d'activité partielle ont aussi mené à une baisse de l'efficience du marché du travail dans ce que l'on appelle le matching, c'est-à-dire le fait que les travailleurs puissent trouver un travail qui correspond à leurs compétences le plus rapidement possible. Aussi, la politique a mené à des pertes de production significatives. En France, après la crise, 9 salariés sur 10 avaient pu reprendre son travail après l'interruption. En sera-t-il de même en 2020 ? Le ministre du Travail et de l'Économie l'espère.
Merci pour cette chronique économique, Nathan, et on passe sans transition à la chronique de Victor, en sueur, qui nous parle de sport.
Un entraîneur,
ça doit être entraînant.
Oui, mais là, ça pique.
Respectez ! Pas faire de faute ! Pas faire de faute !
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foucault, vous êtes un salaud !
C'est mieux que l'année dernière, non, mon virus.
L'année dernière, on n'avait pas d'opium, hein, je te rappelle.
Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable.
Enfin, le moment est venu, mon jingle va pouvoir être entendu dans tous les stades de France et de Navarre. Ça y est, les saisons de football dans les ligues professionnelles sont arrêtées, le PSG est encore une fois champion de France, Marseille ira en Ligue des Champions, mais surtout, le Racing Club de Lens retrouve la Ligue 1. Les sang et or, connus pour leur interprétation pour le moins vigoureuse des corons, retrouveront donc l'élite l'année prochaine et nous promettent des ambiances de dingue au stade Boller de l'Hélice. Et il y a effectivement des championnats qui n'ont jamais arrêté, comme le championnat du Bélarus ou du Turkménistan, mais si comme moi vous en avez marre de la rediffusion de l'étape Châteauroux-Andrézieux du Tour de France 87, la Bundesliga du championnat allemand de football devrait reprendre le 16 mai prochain. L'occasion de retrouver notamment Benjamin Pavard et sa frappe si subtile. Et bien évidemment, pour toutes les compétitions européennes qui incluent des déplacements internationaux, c'est toujours le flou artistique.
Heureusement que certains sportifs continuent de faire des beaux gestes pour aider le personnel soignant.
Et oui, et c'est notamment le cas de l'équipe féminine américaine de football qui a fait don d'environ 91% de son salaire par rapport au salaire de l'équipe masculine.
Attends, ça s'est vraiment passé comme ça ?
En fait, pas vraiment. Le 3 mai dernier, un tribunal américain a refusé l'égalité salariale aux joueuses de l'équipe nationale en rejetant l'argument de la discrimination salariale. C'est vrai que 90% du salaire en moins, on est loin de la discrimination. Et puis la fédération américaine l'explique elle-même très bien, puisque selon ses avocats, il est beaucoup plus dur de jouer dans l'équipe masculine que dans l'équipe féminine. Par l'intermédiaire de sa capitaine emblématique Megan Rapinoe, l'équipe en a alors profité pour ajouter des accusations de sexisme flagrant dans le dossier, en chargeant la fédération, les avocats et des sponsors comme Coca-Cola. Une autre partie du procès doit se tenir le 16 juin et en attendant, le progressisme des États-Unis n'aura jamais fini de nous étonner.
Enfin, pour finir, une statistique importante pour la reprise du sport après le 11 mai.
Et oui, c'est une bonne nouvelle que j'ai annoncée à tous ceux qui, par acquis de conscience, se sont mis à courir tous les jours à 19h pétante. Tout ira mieux lundi, vous n'aurez plus besoin de faire semblant. En effet, le Gorafi nous apprend que lundi, 95% des connards seront de retour sur leur trottinette électrique.
De quoi nous remettre sur pied, et maintenant on se retrousse les manches et on va faire de l'écologie avec le billet écolo de Mathilde à 20h38.
Le billet écolo avec Mathilde.
Oui, lavez-vous régulièrement les mains pendant 20 à 30 secondes, une recommandation de l'OMS. Certes, mais pour cela, encore faut-il avoir de l'eau et du savon. Ça peut paraître évident et pourtant il est bien difficile d'appliquer cette recommandation pour encore beaucoup de populations dans le monde.
S'ils n'ont pas besoin d'eau, qu'ils prennent du gel hydroalcoolique.
C'est effectivement ce qu'aurait dit Marie-Antoinette si elle était encore en vie. Mais comme ce n'est plus le cas, laissez-moi vous parler de celles et ceux qui luttent en ce moment pour un accès à l'eau potable, un droit qui est devenu encore plus vital, si c'est faisable, en cette période. Et à tout hasard, j'ai choisi de vous emmener au Chili pour éclaircir cette situation, où il y a actuellement plus de 3050 personnes affectées par le Covid-19. Dans ce pays du bout du monde, le seul à avoir privatisé ses sources hydriques, plus de 380 000 familles ont un accès précaire à l'eau, d'après la Fondation de l'eau à Moulin, dont 1 500 000 par camion-citerne et 47,2% de la population rurale ne bénéficient pas d'un approvisionnement officiel en eau potable. Il faut ajouter à cela que l'eau transportée par les camions-citernes ne bénéficie pas toujours de contrôle pour vérifier son taux de pollution et assurer sa potabilité.
Et avec les sécheresses répétées qui touchent plusieurs régions du pays, cette gestion de l'eau doit avoir des conséquences particulièrement nocives pour les Chiliens et Chiliennes.
Oui, et une région en particulier est affectée par le manque d'eau. Il s'agit de la province de Petorca, où 36 des 38 communes sont déclarées comme zone de stress hydrique. Là-bas, 108 000 personnes sont approvisionnées de manière quotidienne par des camions-citernes. Et si des systèmes d'approvisionnement en eau existent, ces derniers connaissent des intermittences dans leurs services. Alors pourquoi cette province plus qu'une autre? Parce qu'elle concentre des centaines d'hectares de cultures d'avocats destinées à l'exportation, avec des sources en eau réservées à leur irrigation plutôt qu'aux besoins des populations. D'après le mouvement de défense pour l'accès à l'eau, la terre et la protection de l'environnement, un hectare d'avocatier consomme l'eau nécessaire pour 43 000 lavages de mains de 20 secondes. Or, la répartition de l'usage de l'eau ne peut pas être régulée puisque les sources en eau sont privées, possédées par les exploitants d'avocats. Elles sont donc uniquement destinées à leur irrigation au détriment des besoins vitaux des habitants et habitantes de la province.
Et la privation des sources en eau a l'air d'être un véritable fléau.
Oui, tout à fait, ce sont des droits de l'eau qui sont vendus, leur prix étant annexé au débit de ces sources. Greenpeace Chili prend l'exemple du niveau extrêmement bas du réservoir en eau de la région de Valparaíso. Celui-ci alimente de nombreuses agglomérations et son niveau est extrêmement inquiétant. Or, seulement 2 jours d'usage de sources en eau de la région, qui sont aujourd'hui privées et ne peuvent donc pas servir aux habitants, serviraient à le remplir de nouveau. L'ONG a donc lancé une pétition pour demander au gouvernement chilien un plan d'urgence spécial dans cette période de pandémie pour redistribuer l'eau potable. L'association relève que 80% de celle-ci est destinée à un usage productif, alors même que les conditions d'hygiène permises par un accès correct à l'eau ne sont pas assurées pour tous et toutes.
Si c'est le cas du Chili, si ce cas du Chili est spécifique du fait de la privatisation de l'eau, plus étonnamment, en France aussi, l'accès à l'eau peut être problématique.
Oui, en Guyane, par exemple, au sud de la Grande Terre, plusieurs communes connaissent des coupures en eau qui durent parfois plusieurs jours d'affilée à cause de la vétusté du réseau d'adduction. Dans les communes comme Saint-François, Sainte-Anne ou Le Gosier, des points de distribution en eau non potable et potable ont été installés, créant de longues files d'attente d'habitants qui souhaitent s'y approvisionner.
Et en métropole aussi, tout le monde n'a pas accès à l'eau potable.
Exactement, le tribunal administratif de Toulouse a débouté vendredi 5 associations qui demandaient aux autorités de fournir un accès à l'eau convenable aux personnes à la rue et vivant dans les bidonvilles. On peut lire dans un reportage de Mediapart que le tribunal n'a pas jugé que le manque d'accès à l'eau potable était une carence des autorités, alors même que ces associations, parmi lesquelles Médecins du Monde et la Fondation Abbé Pierre, on relevait qu'environ 2500 personnes, je cite, continuent de vivre à la rue ou en habitat précaire, souvent sans accès à l'eau ou à des sanitaires sur la métropole toulousaine. Alors que l'OMS préconise de se laver les mains plusieurs fois par jour pour éviter d'être infecté par le Covid-19, le non-respect du droit à l'eau potable apparaît comme une inégalité de plus face au virus.
Merci Mathilde pour ce point sur l'accès à l'eau et la privatisation de l'eau potable. Et il est maintenant 20h43, c'est l'heure de retrouver Rémi avec un onde courte qui déconfine la parole.
Onde courte.
Alors oui Martin, je ne suis pas très friand des discours un peu déconnectés qui font de ce confinement un retour libérateur à la simplicité des choses bonnes, mais je voudrais souligner aujourd'hui combien les 2 mois que nous venons de vivre nous rappellent le rôle et la place du média radiophonique et la richesse, toute simple, d'un outil, la radio, fait pour porter les sons et les voix. Alors, pas question, bien sûr, de commenter les audiences faramineuses du confinement, voire de s'en gargariser. En revanche, une réflexion simple s'impose. Si l'écoute prend soudain une telle place, c'est pour mieux offrir cette place à la parole. Cette parole dont nous sommes en partie coupés depuis 2 mois. A l'inverse, cette grande remise à plat fait apparaître les coutures et les ficelles du blabla des heures de grande écoute. Les enchaînements rompus, les voix mal transmises, les ratés techniques font s'évanouir la fluidité artificielle de la parole frelatée des grands plateaux. La radio qu'on pouvait croire parlante est ramenée à sa condition de radio bavarde. Et à côté du comique tout à fait bergsonien de ces plateaux en roue libre, apparaissent donc d'immenses terrains où les deux côtés du micro, celui qui parle et celui qui écoute, sont à égalité, vivent la même chose, s'expriment autant qu'ils écoutent. Je ne veux pas parler non plus de la tendance un peu démagogique à faire intervenir les auditeurs, comme on le dit dans un drôle de paradoxe qui montre justement une verticalité un peu malsaine. Je pense plutôt à toutes ces voix qui fleurissent sur les antennes et sur Internet, des voix qui sortent du bruit de fond, comme celle qu'Alice entend dans le talkie-walkie qu'elle a allumé dans son petit appartement lyonnais.
Donc finalement, j'ai tenté un pangolin pour le reste du monde, pangolin pour le reste du monde. Pangolin, c'est moi, j'ai décidé de donner ça comme surnom. Meuf, il reste juste des lasagnes et des pâtes alsaciennes.
C'est pour ça que quand j'y suis allée, j'ai acheté...
Une des choses rigolotes avec notre histoire, c'est qu'on ne connaît pas nos noms, prénoms, ils ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas à quoi je ressemble. Et on a fixé comme règle du jeu d'attendre la fin du confinement pour savoir tout ça. En vrai, c'est hyper compliqué d'arriver à avoir des conversations avec des gens que tu ne connais pas, que tu essayes de découvrir via des talkie-walkie, surtout quand tu es plus de 2.
J'observe actuellement que le fun que mes voisins ont décidé de garder pour aujourd'hui, c'est de se retrouver à 3 dans le jardin pour arracher les mauvaises herbes.
Moi, je prévois une évasion demain vers la place Rouville. Et en fait, j'observe les gens qui le font aussi depuis 2 jours. Et tout le monde met ses mains sur les rambardes. Donc je regarde tous les endroits, il faut pas que je touche.
Prends les gants.
Putain, j'ai pas de gants.
Caroline Gillet, productrice de Full Continental sur France Inter, recueille et diffuse des carnets de bord comme celui-ci. Venus du monde entier, on peut les retrouver en intégralité sur une page SoundCloud. À quelques rues de ces échanges par talkie-walkie, c'est sur les ondes pirates de la radio du confin que 2 enfants nous parlent avec la réalisation talentueuse de Marc-Antoine Granier.
Donc comme vous le savez, nous sommes en confinement, il y a des gens à la ville et il y a des gens à la campagne. Donc nous savons que tous qu'on pense que la campagne ça doit être un peu plus agréable d'être en pleine nature avec forcément, enfin je ne sais pas, mais un jardin je pense. Donc pour combler cette petite question, nous allons écouter le reporter John Bushman en direct de Saint-Julien-Molin-Molette qui va nous faire un petit reportage sur là où il est.
Radio du confin.
Alors, qu'est-ce que je vais vous expliquer? Ah non, ça va pas la tête, le vent. J'entends que le vent.
À l'inverse, il y a aussi ces auteurs, ces artistes, ces personnalités, comme on dit, que le confinement contraint à revenir à la nudité d'une parole, qui dit alors parfois quelque chose de notre lot commun. C'est le cas de ces lettres d'intérieur, intimistes et touchantes, magnifiquement lues par Augustin Trapenard sur France Inter chaque jour, que Christiane Taubira écrive à une sans-abri qu'elle a connue, que la danseuse Marie-Agnès Gillot parle à son corps abandonné, ou qu'un Gaël Faye endeuillé s'adresse à un ami d'enfance. On est frappé par la modestie de ces paroles, dont on se sent soudain si proche.
Avant de t'embrasser, je joins à ce courrier une photo que j'ai retrouvée. C'était le jour de mon baptême. On y voit ma grand-mère d'un côté, qui m'entoure la taille d'un bras discret, et toi de l'autre, qui t'appuie sur mon épaule. Cette photo me bouleverse. Elle me rappelle comme je t'aime depuis si loin. On existe toujours seul dans la vie, mais tu resteras l'une des rares solitudes à qui je puisse tenir la main. Après tout ça, j'ai hâte de te retrouver, que nous poursuivions la vie, cette valse du temps, ce manège étourdissant, comme autrefois, autour de la petite maison verte de ma grand-mère. Gaël Faye.
Et si la radio confinée ouvre la porte sur une sorte d'intime collectif, comme dans ce hors-série de la revue sonore Le Grain des Choses, où des dizaines de contributeurs et contributrices ont déposé ce qu'ils entendent, jouent, pensent, rêvent et espèrent. Elle nous rappelle aussi que le monde ne s'arrête pas à notre petite expérience personnelle. Parloir, une émission de notre ami Benoît Auclair réalisée entre Transistor et Radio Canu, remet en perspective l'idée d'enfermement en mettant en onde les mots de prisonniers et de prisonnières d'hier comme d'aujourd'hui. Ce sont des lettres et des écrits éclairants du militant irlandais Bobby Sands, de la membre d'Action Directe Joëlle Aubron ou de la chanteuse turque Helin Bölek, morte début avril d'une grève de la faim en Turquie.
Nous sommes en grève de la faim pour affirmer qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y aura toujours quelque chose à faire. Nous étions emprisonnés jusqu'à hier. Être prisonnier ne signifie pas que nous ne pouvons pas agir. Nous étions les plus prisonniers, mais des prisonniers libres.
Jusqu'au grand jour, tu as rêvé que nous atteindrons le combat. Nos armes doivent être le dernier mot, nous avons raison, nous l'emporterons. Nos armes doivent être le dernier mot, nous avons raison, nous l'emporterons.
Une nouvelle, Rémi, à nous annoncer ?
Oui, France Inter a annoncé il y a quelques jours que les Lumières dans la nuit d'Edouard Baird feraient probablement leur retour sur les ondes dès la fin du confinement et même plusieurs soirs par semaine. Ce sera la bonne nouvelle radiophonique de ce début de déconfinement.
Jusqu'à 21h, toute l'actualité mixée, égalisée, montée, enregistrée, captée, compressée,
diffusée,
mixée, égalisée, enregistrée, amplifiée.
Ça part juste là.
Et on passe maintenant à la musicienne avec Nathan.
Eh oui Martin, depuis 3 semaines, c'est la folie des albums de confinement, des mixtapes surprises et des chutes de studio plus ou moins bien emballées. Et pour cela que la musicienne, toujours les deux pieds dans l'actu. Ah non, en fait, on va parler d'albums qui étaient prévus avant le confinement. Bon bah, générique du coup.
Où je vais dire des trucs simples.
Alors Nathan, quel album t'as écouté cette semaine ?
Alors j'hésitais entre deux. D'un côté, il y avait deux compères jazzy de Londres du nom de Tom Misch et Youssef Dice qui sortaient What Kind of Music il y a 2 semaines. Un bon album avec des racines jazz où le producteur-guitariste Tom Misch, après des débuts remarqués en solo, s'associe avec le percussionniste Youssef Dice, percussionniste qui, lui, s'est fait remarquer en duo avec Henry Wu. il y avait de l'attente entre les deux natifs pour les deux natifs de South London. Le résultat est un album aux racines jazz, mais qui s'envole dans des nappes presque des brumes électroniques, tantôt ensoleillées, tantôt sombres, et qui nous porte tout le long d'un album étonnant, où l'on a parfois l'impression de perdre pied. J'aurais pu en parler, mais voilà, un autre album jazz-funk a suscité un vif intérêt de ma part. Cet album, c'est l'album de Cassowary, qui s'appelle Cassowary, un album qui est sorti sans faire de bruit. En témoignent mes recherches Google, je suis plus souvent tombé sur des sites traitant d'une autruche qui est son homonyme que de lui. Enfin, passons. Je digresse. Ce sera coupé au montage, bien sûr. Non, moi, je veux parler du multi-instrumentiste et chanteur Miles Shannon, de son vrai nom, qui a sorti une petite pépite en premier album. Il a déclaré, je crois, dans une interview qu'il voulait que les gens soient surpris en écoutant son album. Bien, c'est réussi, et dans le bon sens du terme. Cassowary se fait des petits plaisirs en lorgnant sur le rap avec une instrumentale jazz minimaliste, puis s'en va faire un titre type nouvelle funk qu'on croirait entendre Thundercats, avant de lancer des harmoniques plus jazz impossibles ôtées à la Nouvelle-Orléans. Il manque peut-être parfois d'originalité, mais l'album est suffisamment diversifié et maîtrisé pour que novice comme fin connaisseur puisse y trouver son compte.
Et à part ça, des petites news croustillantes ?
Oui, avec un petit raté pour commencer. C'est Le Cercle, qui n'est pas une association de fans du roman fantastique de Tolkien ou du film d'horreur où des filles faisant une cure de sébum sortent de votre télé. Non, Le Cercle est une entreprise qui produit des concerts de DJ célèbres et reconnus dans des lieux et à des heures inhabituelles pour la musique électronique. Je résume le concept. Prenez donc Nina Kravitz, Boris Brejcha ou Amélie Lance. Prenez une heure impensable pour les forçats de la nuit, genre 14h, ajoutez quelques sites touristiques comme le château de Chambord, la tour Eiffel ou des îles Tahitiennes, mélangez le tout et filmez-le, et ça donne les événements parmi les plus prisés de la scène électronique française. Les DJ sets n'ayant pas tellement le vent en poupe ces derniers temps, l'association Le Cercle a eu l'idée de déloger Bob Sinclair de ses live Insta pour lui proposer d'aller mixer au sommet de l'Arc de Triomphe pour un concert sans public, retransmis en direct, dont l'objectif était de récolter des fonds pour l'association Médecins Sans Frontières.
Et en quoi c'est une mauvaise nouvelle ?
Eh bien, il semble que le concept de concert sans public ait eu du mal à passer, puisque l'organisation comme les autorités de Paris ont craint que certains fans du DJ viennent se rassembler, ce qui était pas très dans l'esprit geste barrière. L'organisation Le Cercle a préféré annuler l'événement. Néanmoins, pour les fans de mix en plein air et les accros au festival d'été, le Cercle organise un festival sur 2 jours au musée de l'air et de l'espace à Le Bourget en octobre avec des jolis noms. Sinon, pour les impatients, vous pouvez toujours organiser votre propre set comme la Marine Britannique. Une fête accompagnée d'un barbecue, voici le programme que s'est offert l'équipage du sous-marin nucléaire britannique HMS Trenchant en plein confinement. Un moment festif dont se rappellera sûrement le commandant qui a été démis de ses fonctions.
Et il n'y a pas d'autre solution qui n'implique pas d'outrepasser la loi ?
Si, il y a toujours la possibilité de faire des concerts virtuels. Alors, bon, dès l'annonce du confinement et partout dans le monde, il y a eu des DJ qui se sont filmés et enregistrés pour diffuser en direct leur mix, mais le rappeur Travis Scott a franchi un cap vendredi dernier en donnant la possibilité de se balader virtuellement autour de sa prestation. Ceci grâce à un partenariat avec le jeu Fortnite, la plateforme vous proposait de vous créer un personnage à l'effigie ou non de Travis Scott et vous balader dans un monde virtuel à mi-chemin entre le Battle Royale et l'univers du rappeur déjà amateur de l'ambiance digitale. Le tout donne un résultat de 13 minutes surprenant et divertissant, dont vous pouvez retrouver de multiples prises de vue sur YouTube, une initiative à renouveler.
Malheureusement, il n'y a pas que des belles nouvelles cette semaine, Nathan, il me semble.
Oui, on se quitte sur. On repart sur une triste nouvelle encore, et je m'attriste de voir que ma chronique se transforme en une rubrique nécro. Cette fois-ci, c'est l'un des pionniers de l'afrobeat qui est parti. Tony Allen, qui était un rappeur, auteur, compositeur nigérian, et avec. qui collabora avec Fela, qui grèvera par ailleurs ses paroles révolutionnaires et panafricanistes, et qui feront des deux un des symboles les plus forts de la lutte libérée en Afrique. Tony Allen et Fela, qui au retour d'un voyage aux États-Unis, qui le porta à découvrir le funk, développèrent cet afrobeat, genre à part entière, entre musique hypnotique et répétitive, mêlant le style high life, la polyrythmique yorumba, le jazz, le funk, et qui devient un des courants fondamentaux de la musique africaine du XXe siècle. J'invite tous les auditeurs à aller écouter d'ailleurs une interview au vinyle qu'il a donnée pour FIP. On découvre tout de suite un titre enregistré à Londres où le percussionniste résidait, un titre enregistré peu de temps avant le confinement et sorti en hommage à un grand monsieur de la musique, Au Phare, c'est le titre du morceau, Gorillaz invite aux baguettes le batteur légendaire ainsi que le pionnier de la grime Skepta au micro.
Yeah, walk on brother. Time to hustle for the money, give a change to your mother. Change them sheets, you got stains on the cover. Better look sharp, now your face on the cover. Like a chameleon, see you changing your colour. Crabs in the barrel, wanna hate on each other. So my life gets better, whatever the weather. I dance in the rain and I bathe in the summer. It's the black Coleon in a button-up shirt. Before we take off, you better buckle up first. Fresher than the president, psychedelics got me in my element. All negativity, that's irrelevant. And belief or ganja leaf, I backstrap when I wrap the sheets. Now I feel to go for a drive, so I grab my keys. Shades on, roof down, trying to catch a breeze.
Et le mot de la fin, Nathan?
Le mot de la fin, je le laisse au producteur italo-américain du nom de Clams Casino, dont j'ai relégué l'écoute de l'album aux dernières places de ma liste cette semaine, un choix que je regrette amèrement, puisque je n'ai pas assez d'écoute pour vous en parler correctement. Bon, j'aurais pu là aussi vous parler de l'album de Rhône qui est sorti vendredi dernier, qui est très sympa, mais j'ai préféré parler de Instrumentrolique sorti ce vendredi. Un album qui quitte un peu l'univers rap du producteur qui est connu pour ses collaborations avec Mac Miller et ASAP Rocky, pour des sonorités plus cloud, plus planantes, que si j'ai bien compris, et plus sa marque de fabrique en solo. On écoute tout de suite un extrait avec Cupid D-Wing.
Merci Nathan pour toutes ces découvertes et pour clore ce journal radiophonique amplifié, on va passer rapidement à la chronique culturelle présentée pour une fois par Mathilde. C'est la chronique culturelle à 21h sur Transistor.
Et quelques nouveautés depuis le monde de la culture qui viennent égayer notre quotidien. D'abord, un nouveau dessin de Bansky, réalisé dans un couloir de l'hôpital général de Southampton. Son œuvre appelée Game Changer rend hommage au personnel hospitalier en représentant un petit garçon qui joue avec la figurine d'une infirmière super-héroïne après avoir jeté ses jouets de Batman et Spider-Man à la poubelle. Il permet de mettre le projecteur sur toutes ces femmes dont le rôle est si important contre le coronavirus, notamment dans le monde du soin. Et le dessin n'a pas vocation à rester dans ce couloir. À la fin du confinement, il est prévu qu'il soit affiché en public, puis vendu aux enchères pour lever des fonds pour le NHS, le système de santé britannique.
Et ce n'est pas le seul artiste qui propose de se servir de ses œuvres pour lever des fonds. Puisque l'État n'aide pas la culture, elle, aide les services de soins et des associations comme le Secours Populaire, par exemple.
Oui, il s'agit des artistes Quentin Carnaille et Thomas Bevilacqua qui vont reverser plus de 50% des bénéfices de la vente de leurs photographies au Secours Populaire Nord.
Et à ce propos, elles représentent quoi leurs photos?
Des gens nus avec des cubes en miroir sur la tête.
Oula, Il est temps que le confinement se termine.
Non mais laisse-moi t'expliquer pourquoi ces photographies ont vraiment du sens, particulièrement en ces temps de confinement. Depuis 4 ans, les deux artistes ont mis en scène des hommes et des femmes nus dans différents espaces, devant le Louvre, sur une plage face à la mer ou sur une route de campagne. Ils posent tous de dos, seuls, avec un cube en miroir à la place de leur tête. Par ces images, ils souhaitent montrer au grand jour, je cite, « la vulnérabilité de l'homme, victime de son ambition et la connexion entre chaque être humain ». Les photos évoquent en effet sa solitude face au monde, représentée par l'immensité d'un paysage aux lignes d'horizon épurées. Les cubes miroirs me font aussi penser à tous les écrans et tous les médias que nous posons entre nos cinq sens et le monde, dans une même démarche qui nous connecte et nous isole, particulièrement en ce moment où le moyen d'être ensemble se fait par écran interposé. Des photographies touchantes, donc, que je souhaitais partager avec vous, où les modèles sont à la fois seuls et unis dans une même condition. On aurait juste envie de leur ôter le cube de la tête et de les laisser retrouver d'autres personnes.
Et pourtant, il y a des écrans dont tu as bien du mal à te séparer. Comme tu ne peux pas attendre que les cinémas rouvrent leurs portes, tu as trouvé la solution. Tu regardes des bandes-annonces en boucle, même si tout le monde sait que c'est nul les bandes-annonces, parce que ça gâche le plaisir de découvrir les films.
Oui, mais là c'est très différent. Je suis super excitée. J'ai découvert aujourd'hui le trailer du nouveau film de Wes Anderson. Et dire qu'il est sorti le 12 février, je ne sais pas comment j'ai pu le rater, alors je me rattrape, je vous fais écouter un petit extrait.
We take as the subject of tonight's lecture, Mr. Moses Rosenthal, certainly the loudest artistic voice of his rowdy generation.
Simone Naked Cell Block J Hobby Room. I want to buy it.
It's not for sale.
Yes, it is.
No, it isn't.
Yes, it is.
No, it isn't.
Yes, it is.
No, it isn't.
Yes.
In short, the picture was a sensation.
The kids did this. Obliterated 1,000 years of Republican authority in less than a fortnight. What do they want? Freedom. Full stop.
I'm naked, Mrs. Cremins.
I can see that.
Lieutenant Nescafe. Est-ce que vous savourez déjà le rythme de l'intrigue qu'on devine, les voix de ce casting incroyable et comme toujours, la touche d'humour absurde? Et encore, vous n'avez pas devant vos yeux l'esthétique des plans, l'harmonie des couleurs et des symétries réalisées au millimètre près. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'univers de Wes Anderson, je vous conseille de vous plonger dans Moonrise Kingdom, La famille Tenenbaum ou plus récemment L'île aux chiens. Vous découvrirez alors des histoires qui mêlent avec une grande délicatesse la cruauté et la douceur de personnages enfants, et la description si juste de leurs relations et de leurs sentiments.
Et en attendant la réouverture des cinémas, on peut continuer à regarder des bandes-annonces en boucle ou à écouter la radio. C'était la 46e édition du journal radiophonique amplifié, toujours en direct et malgré le confinement. Marie Dougnac, Nicolas Sendé, Rémi Cerda, Victor Andrade, Nathan Viera, Mathilde Picard et Martin Touzeau étaient ce soir présents et présentes depuis chez elle pour vous présenter l'actualité. Responsable de notre régie dématérialisée ce soir, c'était Rémi Cerda et un peu tout le monde. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau journal radiophonique amplifié sur Transistor.